Bonjour. Anne Chénault et moi-même, Gilles Roulet, cherchions à comprendre depuis longtemps pourquoi notre société évoluait en dépit du bon sens, alors que nous avons des connaissances qui nous permettraient de l'améliorer. Et en 2011, en constatant l'augmentation de la violence des relations partout, au travail, dans la rue, sur les réseaux sociaux, nous avons décidé d'entamer une véritable réflexion sur notre société. Nous allons vous présenter comment nous voyons ce qui se passe actuellement dans le pays. Vous pourrez, si vous le souhaitez, échanger avec nous et approfondir la question sur notre site internet quellesociétés.fr.
Le Covid-19 et le confinement ont interrompu un mouvement de protestation grandissant dans le pays, principalement axé contre la réforme des retraites. Un an plus tôt, il y avait eu les Gilets jaunes. Le mécontentement ne peut plus s'exprimer, mais n'a pas disparu pour autant. Il provient de l'augmentation des difficultés économiques pour un grand nombre d'entre nous et de l'augmentation des injustices. Ces mouvements sociaux exprimaient aussi une grande défiance envers nos dirigeants, qui n'a pas disparu non plus. Elle peut s'expliquer en partie par le fait que le monde politique est devenu un monde à part, complètement déconnecté de la vie réelle, et dans lequel, pourtant, les décisions se prennent. Mais cette explication n'est pas suffisante. En fait, c'est l'ensemble de notre organisation sociale qui rend la confiance impossible. Comment en sommes-nous arrivés à cette idée? Lorsque nous avons cherché à comprendre pourquoi les gens se comportaient de plus en plus violemment, verbalement et physiquement, nous avons identifié une conjonction de deux facteurs. Un facteur psychologique. Nombre d'entre nous ont pu être conditionnés par leur éducation à vouloir s'imposer, ne pas montrer qu'ils ont tort ou qu'ils ont peur, et un facteur social, provenant du fait que nos organisations sociales sont très hiérarchisées et pyramidales. C'est bien la conjonction de ces deux facteurs qui a des effets négatifs sur la société. Voyons cela plus en détail.
Dans une organisation pyramidale, les places du haut sont survalorisées et assorties de privilèges, tandis que celles du bas sont dévalorisées et défavorisées, ce qui peut donner envie de gravir les échelons de l'organisation. La structure pyramidale fait qu'il y a toujours moins de places à l'échelon supérieur que de prétendants à y monter, ce qui produit de la compétition sociale et de la rivalité relationnelle. Alors, évidemment, dans ce contexte, les personnes ayant été conditionnées par leur éducation à s'imposer, que ce soit par la force ou par la manipulation, gravissent plus facilement les échelons de l'organisation. Et celles qui arrivent en haut sont la plupart du temps admirées, parce que ce ne sont pas seulement les places qui sont hiérarchisées, mais les personnes elles-mêmes. Quant à celles qui sont en bas, elles sont plutôt méprisées. Cette structure pyramidale produit donc de l'inégalité, de l'injustice, de la compétition sociale et de la violence. Elle s'est malgré tout généralisée dans toutes nos organisations sociales, si bien que nous la trouvons partout. Dans les familles, lorsqu'il y a une autorité qui s'impose, dans les écoles où les notes hiérarchisent les élèves, dans les entreprises, dans les organismes de gouvernance. Les nations elles-mêmes sont de structures pyramidales. Et maintenant, avec la mondialisation des transports et des communications, c'est la communauté humaine tout entière qui est prise dans une immense structure pyramidale. Nous l'appellerons la grande pyramide. Dans cette grande pyramide, l'argent est un critère de hiérarchisation des places et des personnes, les plus riches étant souvent admirés, tandis que les plus pauvres sont plaints dans le meilleur des cas ou rendus responsables de leur situation dans le pire des cas. La généralisation de la structure pyramidale peut faire penser que ça serait la seule façon de s'organiser collectivement, d'autant plus que ça peut paraître naturel, puisqu'il y a aussi dans la nature des organisations pyramidales. Dans certains groupes d'animaux, le dominant qui est en haut de l'organisation a des privilèges, mais remarquons que c'est en contrepartie d'un service rendu au groupe, celui d'assurer sa sécurité. Et ce dominant finira par être remplacé par un autre, qui émergera du groupe parce qu'il aura la capacité d'assurer la sécurité du groupe mieux que lui. Chez nous, les humains, il y a aussi des organisations pyramidales très hiérarchisées et qui fonctionnent très bien. C'est le cas des corporations destinées à des missions très spécifiques, comme par exemple une compagnie de sapeurs-pompiers. La hiérarchisation est acceptée parce qu'elle est indispensable pour répondre au mieux à la mission. Et ça fonctionne bien parce qu'il y a un lien de confiance entre tous. Malheureusement, ce n'est pas ce type d'organisation qui s'est généralisé. Ce sont plutôt des organisations dans lesquelles les personnes qui sont en haut ne se préoccupent pas ou pas assez des difficultés de celles qui sont en bas. Dans la grande pyramide, les 1% les plus riches de la population mondiale et des PDG des très grandes entreprises agissent principalement pour leurs intérêts et ceux des grands actionnaires. Même quand ils investissent dans des œuvres socialement utiles, ils en retirent des avantages. D'abord des avantages fiscaux, ainsi que des bénéfices narcissiques, parce qu'ils médiatisent leur action, ce qui leur permet d'être admirés un peu plus. Ce n'est pas le cas de tous les PDG, nous ne mettons pas tout le monde sur le même plan. Mais c'est très fréquent, et ça explique le manque de confiance de la base. Autre différence par rapport à ce qui se passe chez les animaux, c'est que les 1% les plus riches ont leur place en haut assurée à vie, et ils la transmettent à leurs enfants. Nous pouvons nous plaindre de ce type d'organisation pyramidale que nous avons créée nous-mêmes, ne l'oublions pas. Nous pouvons nous en moquer, mais le plus important, c'est tout de même de réfléchir pour trouver une alternative à cette structure. Faire un peu d'histoire pour comprendre comment nous avons créé cette grande pyramide va nous être utile pour la déconstruire.
Remontons aux origines de l'humanité. Il y a environ 10 000 ans, l'invention de l'agriculture et de l'élevage a eu pour conséquence que l'humanité, qui était nomade, vivant de chasse et de cueillette, s'est sédentarisée. Elle a créé les premiers villages. Et pour Jean-Paul de Moule, qui est archéologue, ça marque le début de l'augmentation des populations humaines, de l'apparition de la guerre et des chefs, de la prise de contrôle de la planète par les humains. Depuis, les villages sont devenus des villes, il y a eu la création des États-nations, et le progrès technique a été utilisé pour dompter la nature dans un premier temps, et beaucoup plus tard pour la saigner au profit d'une surconsommation irraisonnée. Nous ne sommes évidemment pas responsables de cette évolution millénaire, mais il nous revient à nous maintenant de comprendre les processus ayant conduit à cette grande pyramide pour pouvoir inverser la dynamique et construire un monde meilleur. Il existe un modèle d'organisation sociale compatible avec les idées de justice et de paix. Il a été inventé dans les années 70 par deux Australiens et peut se décliner à toutes les échelles, y compris à l'échelle de la société humaine. C'est un modèle d'organisation en forme de fleuve, chaque pétale représentant un domaine de compétence. Il y en a 7. La préservation de la nature, l'habitat, la technique, l'enseignement et la culture, l'économie et la finance, la gouvernance, la santé et le bien-être. Avec ce modèle, il n'y a pas de hiérarchisation entre ces domaines de compétences, puisqu'ils ont une place équivalente. Il n'y a pas non plus de compétences survalorisées. Les capacités intellectuelles et d'éloquence de certains individus ne valent pas plus que les capacités de d'autres à créer quelque chose d'utile, de solide, de beau. Les personnes ne sont donc ni survalorisées ni dévalorisées. Les auteurs de ce modèle, la fleur donc, pensent que pour la faire advenir, il est nécessaire que chacun de nous s'empare de ce qu'ils ont placé au cœur du modèle, l'éthique et les trois principes fondamentaux de la permaculture qui sont prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain et partager les richesses. Les auteurs l'ont symbolisé sur leur schéma de la fleur par une flèche circulaire qui part du centre et qui traverse tous les pétales, donc tous les domaines. Nous pouvons tous nous emparer de ces trois principes fondamentaux, le soin à la nature, aux humains et le partage des richesses, quelle que soit notre place dans la société, même si nous avons été conditionnés à la rivalité. Et c'est possible parce que ce désir est en cohérence avec 4 exigences fondamentales présentes en nous d'emblée. Une exigence de sens, une exigence de justice, une exigence de paix et une exigence d'amour. Il faut entendre le mot amour au sens large de l'amour d'autrui qui fonde l'empathie. Pour l'instant, nous sommes loin de la fleur, tellement loin que ça peut paraître utopique. Mais l'utopie a une utilité, elle peut nous guider pour tendre vers ce qui fait sens pour nous. Elle nous montre le chemin. Alors nous n'atteindrons pas la fleur demain, parce que nous partons de très loin. Mais le simple fait d'avancer sur ce chemin signifie que nous sommes en train de lâcher prise au niveau de la rivalité et de la compétition sociale. Et ça fait baisser immédiatement notre stress. Pour aller plus loin sur ce chemin, il est nécessaire de veiller à ne pas activer un piège qui est en nous. Ce piège, c'est notre ego. L'ego est ce qui nous pousse à vouloir prendre le pouvoir sur les autres, à vouloir lire l'admiration dans le regard qu'il porte sur nous, à vouloir jouir de tout, même au détriment des autres. Nous lui avons accordé inconsciemment trop d'importance dans nos vies, ce qui a favorisé la généralisation de la structure pyramidale dans nos organisations sociales. Tout ça s'est accéléré à partir des années 80 pour aboutir à cette grande pyramide qui nous englobe tous. Commençons par voir les problèmes que cette grande pyramide nous pose, en plus de son inégalité sociale structurelle dont nous avons déjà parlé.
Le premier problème, c'est que la structure pyramidale s'impose dans nos esprits comme si elle était incontournable, comme un fait auquel nous devrions nous adapter. Preuve en est avec la notion d'ascenseur social qui valide implicitement l'idée de pyramide. Le deuxième problème, c'est que dans cette grande pyramide, il est admis que l'argent monte comme naturellement vers le haut. Preuve en est cette fois-ci avec les deux grandes théories qui nous sont proposées pour plus de justice sociale. Il y a la théorie du ruissellement de la richesse. Donc l'argent monte naturellement et ruisselle simultanément tout aussi naturellement. Et il y a la théorie de la redistribution. Comme l'argent monte naturellement, il faut aller le chercher en haut pour le redistribuer. Quant à nous, nous remettons en cause ce processus soi-disant naturel de l'aspiration de l'argent vers le haut. Nous ne nions pas son existence et même nous constatons que non seulement l'argent monte, mais aussi qu'il s'accumule en haut. Nous considérons que ce processus d'aspiration de l'argent a été provoqué par la recherche de rentabilité financière, qui s'est généralisée chez les actionnaires et chez la majorité des consommateurs. La consommation au moins cher est devenue la norme, à tous les échelons de la pyramide, que ce soit pour l'achat d'objets, de services ou de loisirs. Ce sont des grands groupes d'intérêts privés qui récoltent les fruits de cette surconsommation au moins cher, car c'est le volume des ventes qui les enrichit, et ils savent parfaitement réduire les coûts de production. Ces grands groupes ont acquis de l'influence dans la grande pyramide. Ils ont créé des collusions d'intérêts avec des hommes politiques, et ils ont réussi finalement à se hisser au-dessus des pouvoirs politiques nationaux. Et ça, c'est le troisième problème de cette grande pyramide. Ces grands groupes peuvent maintenant exercer des pressions sur les hommes politiques si nécessaire, et peuvent aussi attaquer les États en justice si ces derniers prennent des décisions qui nuisent à leurs intérêts. Force est de constater aussi que ces grands groupes n'assument pas les conséquences sociales et écologiques de leur politique de développement. Ils ne payent pas le chômage des licenciés suite à un plan social. Ils ne financent pas non plus la déconstruction de leurs usines après une délocalisation. Et pour finir, ils mettent en place des stratégies pour éviter de payer leurs impôts. C'est un manque à gagner pour les États. Voyons quelles en sont les conséquences concrètes en France. Le gouvernement, à défaut de remettre en cause ce processus d'aspiration de l'argent vers le haut, cherche de l'argent pour les services publics dans le bas de la pyramide. Il ne peut donc pas répondre réellement aux besoins. Il ne fait que transférer des moyens d'un service à l'autre en fonction de l'urgence du moment. Il ne fait que déshabiller Pierre pour habiller Paul. Que se passerait-il si nous arrêtions massivement d'alimenter ce processus d'aspiration de l'argent vers les grands groupes d'intérêts privés? Il finirait par en être amoindri progressivement, sous l'effet de notre changement de mentalité qui prend du temps. Et donc, ça permettrait à l'économie de se réorganiser. Nous pouvons être optimistes parce que nos quatre exigences fondamentales que nous avons déjà citées, sens, justice, paix et amour, sont présentes en nous tous, que nous soyons en bas de la pyramide ou en haut. Les personnes qui renoncent à la rivalité et à la compétition sociale sont de plus en plus nombreuses et elles témoignent de leurs expériences. Non seulement elles ne regrettent pas leur changement de vie, mais elles y gagnent quelque chose qui n'a pas de prix, l'accès à la joie.
La joie, c'est l'émotion par excellence qui participe de ce qui nous rend heureux. Elle est impossible à ressentir au détriment de quelqu'un, donc impossible à ressentir dans le cadre d'une relation de rivalité, dans laquelle il y a toujours un dominé, et impossible à ressentir dans le cadre d'une réussite sociale faite au détriment des autres. De plus, la joie est amplifiée lorsqu'elle est partagée. Vous comprenez pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui réorientent leur vie pour la mettre en cohérence avec leurs exigences fondamentales. Revenons à l'évolution souhaitable de cette grande pyramide. L'argent, ne s'évaporant plus vers le haut, pourrait être investi dans l'économie réelle au profit de tous et dans les aides sociales. Il y aura toujours des personnes à aider à cause des accidents de la vie. Le fait que l'argent circulerait dans l'ensemble de la grande pyramide aurait pour conséquence, schématiquement, qu'elle s'aplatirait et que ses côtés s'écarteraient vers l'extérieur. En extrapolant, nous arriverions à une nouvelle structure d'organisation en forme de trapèze. Dans une organisation trapézoïdale, les écarts de revenus sont contenus dans une proportion raisonnable. Et en veillant à ce que les pouvoirs politiques ne soient pas supplantés par des intérêts privés, nous stabiliserions cette nouvelle structure. Nous pourrions y développer de la richesse non financière. Il y aurait moins de compétition sociale et moins de violence, ce qui nous permettrait de chercher plus sereinement comment aller vers la fleur. Ce changement nous semble souhaitable d'un point de vue politique, pour plus de justice sociale, mais aussi d'un point de vue écologique. Nous devons modifier notre façon de concevoir la vie afin d'éviter la catastrophe écologique annoncée par les scientifiques du GIEC. En mettant toute notre intelligence au service de ce changement, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Nous pouvons inventer un mode de vie qui préserve les ressources naturelles, qui protège la biodiversité, ainsi que l'équilibre entre la production de gaz carbonique et sa régulation par la végétation. Tout cela peut paraître abstrait et lointain, mais il y a quelque chose de très concret que nous pouvons tous faire, et tout de suite. C'est facile à mettre en œuvre, et ça ne coûte rien. C'est juste une révolution dans nos esprits. Ralentir.
En ralentissant, nous réduisons de facto notre empreinte écologique, car c'est la futilité, mais aussi l'accélération de l'activité humaine qui nous a mis face à l'urgence climatique. Ralentir permet aussi de trouver ou de retrouver des plaisirs oubliés. Le plaisir de prendre le temps de goûter les choses. Le plaisir de l'attente joyeuse pour profiter pleinement d'un événement. Le plaisir d'avoir le temps de bien faire ce que nous entreprenons. Ralentir permet aussi de prendre du temps pour réfléchir, discuter et prendre des décisions permettant d'avancer sur le chemin qui nous mènerait à notre première étape, le trapèze. Pour y arriver, il y a néanmoins deux préalables. Le premier, c'est qu'il faudrait que les discussions puissent se faire dans ce que nous appelons l'apparentement. L'apparentement est le contraire de la rivalité. C'est la disposition à s'accorder avec l'autre d'égal à égal, avec empathie et bienveillance, quelles que soient les différences, d'âge, de sexe, de niveau d'études, etc. Et le deuxième préalable, c'est qu'il faudrait que les décisions soient prises par consentement. C'est un mode de prise de décision alternatif à l'unanimité, qui est difficile à obtenir, et au vote, qui favorise les alliances et les rapports de force. La seule urgence à nos yeux, c'est que chacun de nous entre dans la dynamique de changement, l'essentiel étant de commencer. Ça peut être en effectuant nos déplacements à pied ou à vélo, dès que possible plutôt qu'en voiture, en privilégiant les circuits courts pour que l'argent circule en bas, en limitant notre usage du numérique pour diminuer notre impact environnemental, en organisant nos vacances de façon plus écologique et éthique, en plaçant notre argent dans des organismes socialement responsables, en œuvrant pour qu'une organisation pyramidale devienne moins pyramidale, donnons un mode opératoire sur notre site internet, en créant des entreprises coopératives qui partagent leurs bénéfices équitablement, ce que l'on appelle des SCOP, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Nous, les citoyens, avons plus de pouvoir que nous le pensons. Regardons ce qui s'est passé avec la demande de bio qui s'est généralisée. Elle a été entendue par nos gouvernants, par tous les partis politiques, ainsi que par les grands groupes de l'agroalimentaire. Ne soyons pas dupes, ils savent qu'ils doivent évoluer aussi sans quoi ils seraient en danger. C'est ça le poids de la demande. Et la demande, c'est nous. Alors exigeons haut et fort, non seulement du bio, mais aussi des lois et des pratiques commerciales, éthiques et écologiquement responsables, qui permettront à tous de vivre dignement sans dépendre de la générosité des autres ni des aides sociales. Voilà, nous arrivons au terme de notre présentation. La remise en cause de la structure pyramidale, de la rivalité et de l'accélération d'une activité futile nous permettrait de résoudre le problème de l'injustice sociale, celui de la violence et celui de la crise environnementale. Nous espérons convaincre que nous pouvons transformer la société sans passer par le chaos d'une révolution violente comme nous en avons déjà connu. Nous pensons que c'est l'intérêt de tous. Merci de votre attention.